France Culture.
Il y aura de l'eau, des tentes et des médicaments. Promesse de l'armée israélienne ce matin qui exige l'évacuation de la ville de Gaza. Mais les Palestiniens, vous l'entendrez, n'y croient pas. Google doit payer et va payer. L'eurodéputé Renew Sandro Gozzi juge inacceptable les menaces de représailles de Donald Trump après par l'Europe au moteur de recherche. Adieu les Nico Push, ces petits sachets de nicotine prisés par les adolescents. Le gouvernement les interdit car ils contiennent des métaux lourds. Et puis, elles aussi veulent tout bloquer. Le collectif féministe Nous Toutes se joint à l'appel du 10 septembre. Emmanuelle Anchoudu, militante du collectif, est l'invitée de ce journal. Évacuation immédiate de la ville de Gaza. L'armée israélienne ordonne de nouveau aux habitants de quitter la ville ce matin avant une offensive annoncée sur toute la partie sud-ouest. Elle leur demande de se déplacer vers une nouvelle zone humanitaire du côté de Khan Younes. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Mathilde.
En direct de Jérusalem, l'appel est assez peu suivi pour l'instant. Il reste encore environ 1 million de personnes dans la zone. Pourquoi est-ce que les Palestiniens ne se déplacent pas vers le sud ?
Eh bien déjà parce qu'ils ne croient tout simplement pas les Israéliens. L'armée a annoncé tout à l'heure par la voix de son porte-parole arabophone la création, vous l'avez dit, de cette nouvelle zone dite humanitaire. Et elle se situe, dit-il, dans la ville de Khan Younes. C'est au sud, on y trouverait de l'eau, des hôpitaux de campagne, des tentes et de la nourriture. La réalité que l'on nous rapporte de l'intérieur de l'enclave, c'est que pour le moment, l'espace est saturé, le prix des logements explose et qu'il est très compliqué de tout abandonner. C'est le cas de Souila. Elle a été déplacée 4 fois depuis le début de la guerre. Elle vit dans la ville de Gaza, sur les décombres d'une maison, et elle est au micro du journaliste Nabil Diab.
J'aimerais vraiment qu'on nous aide à partir. Je ne veux plus vivre ici. Mais pour aller où ? Vers le sud ? À Deir el-Bala ou à Khan Younes ? Je n'ai plus les moyens de me déplacer. Je n'ai plus d'argent. Je suis malade. Je suis fatiguée. Je ne veux plus rester ici. Je pleure jour et nuit. Je veux quitter Gaza, on n'en peut plus.
L'armée israélienne estime que sur les 900 000 à 1 million d'habitants de la ville de Gaza, seulement 70 000 sont partis. Information évidemment compliquée à vérifier puisqu'Israël n'autorise toujours pas la presse étrangère à travailler en toute indépendance dans l'enclave.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem pour France Culture. Et par ailleurs, le ministère de la Santé de Gaza fait état de 6 morts ce matin en raison de la famine. Au total, 382 personnes sont mortes de faim à Gaza selon cette même source depuis le début de la guerre. La tension monte encore d'un cran entre l'Europe et les États-Unis. Alors que l'Union européenne a décidé de sanctionner Google hier, 2,95 milliards d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la publicité. Voilà que Donald Trump menace de riposter avec de nouvelles sanctions commerciales. Isabelle Labéry.
Il y a d'abord un message assassin sur son réseau Truth Social, puis une réponse à une question de journaliste à la Maison Blanche. Dans les deux cas, Donald Trump répète que les amendes infligées à Google et Apple sont infondées, injustes, discriminatoires. Ce sont des sommes astronomiques, dit-il, et les Européens nous en infligent tellement souvent que ça leur fait presque une nouvelle source de revenus. En plus, ils ne font pas du tout ça avec la Chine. Si Bruxelles ne revient pas sur sa décision, le président américain menace donc d'imposer des droits de douane supplémentaires, des taxes punitives déclenchées par ce qu'on appelle la section 301, artillerie lourde qu'il a déjà sortie en 2019 contre Pékin. Avec l'Europe, cela fait au moins 2 semaines qu'il est sur le sujet. L'Amérique et ses formidables entreprises technologiques ne sont plus ni la tirelire ni le paillasson du monde, disait-il le 25 août. Il faut nous montrer du respect. Sauf que la Commission n'a aucune intention de revenir sur les amendes ou de retirer ses lois numériques.
C'est la 4e fois que Google est condamné par l'Europe et ils vont payer, affirme Sandro Gozzi, eurodéputé Renew et secrétaire général du Parti démocrate européen. Ces menaces de représailles américaines, dit-il, sont inacceptables.
Google, comme d'autres opérateurs, disons, dans le domaine technologique, les GAFAM, comme on les appelait, ont été obligés de respecter les règles de notre marché parce qu'eux, ils souhaitent opérer dans notre marché qui, je rappelle, c'est les premiers au monde. C'est la raison pour laquelle ils sont tellement remontés. La raison pour laquelle le président Trump s'acharne, nous attaque, fait des déclarations, nous menace concernant notre législation numérique, c'est parce que les big tech, voudrait éviter de devoir respecter nos lois.
Sandro Gozzi, eurodéputé Rignot au micro de France Info ce matin. Après l'interdiction des puffs, les cigarettes électroniques jetables au début de l'année, le gouvernement continue sa croisade contre la nicotine et interdit les pushs, ces petits sachets de gomme que l'on coince entre la lèvre et la gencive. Un décret est paru ce matin au journal officiel et le produit sera définitivement banni des commerces à partir de janvier prochain. Bonjour Estelle Caméraire.
Bonjour Mathilde.
Alors on appelle ça des nicopushs, ce sont des petits sachets de la taille d'un timbre qui contiennent une portion de nicotine sans tabac et c'est très populaire chez les jeunes.
Notamment à cause de leur goût acidulé et de leurs emballages colorés. Mais un sachet peut contenir l'équivalent en nicotine d'un paquet de cigarettes. Eh bien, que réservé aux adultes fumeurs, des influenceurs rémunérés par l'industrie du tabac en font la pub sur leur réseau, explique Marion Catelin, directrice de l'Alliance contre le tabac.
On a pu observer qu'il y avait des challenges sur TikTok à partir de ces chewing-gums magiques. C'est comme ça que les plus jeunes nomment les sachets de nicotine parce que ça provoque des shoots de nicotine très fort au cerveau. Et effectivement, ça peut provoquer des vomissements au-delà du fait d'entraîner une addiction très rapide et très forte à la nicotine.
Ces produits remplaçaient d'ailleurs les puffs pour développer le business du tabac hors cigarette.
Et le décret n'interdit pas que les pushs, Estelle.
Non, il va plus loin en interdisant toutes les futures innovations à base de nicotine hors usage médical.
Ce projet de décret pour lequel nous, on a fortement poussé, c'était d'éviter de courir après chaque innovation et de viser à interdire innovation après innovation chaque produit. Là, on intervient finalement en amont. C'est peut-être la première fois qu'on obtient cette victoire, c'est-à-dire d'avoir une interdiction de principe. C'est vraiment très encourageant.
Un décret urgent pour Marion Catelin, car aujourd'hui, les sachets représentent 40% du chiffre d'affaires de certains groupes, comme Philippe Maurice.
Merci Estelle Caméraire. Également au journal officiel ce matin, le renforcement de la prise en charge des bébés dans les pouponnières de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Le nombre de bébés entre 0 et 3 ans par structure sera limité à 30, avec un adulte pour 5 enfants, contre 6 actuellement. Ne pas casser, ne pas tabasser, ne pas insulter. Voilà la consigne de Laurent Jacobelli aux militants du Rassemblement National pour la journée du 10 septembre. Sur France Info ce matin, le porte-parole du RN met en garde ses partisans contre, je cite, la révolte de l'extrême gauche. Alors, à 4 jours maintenant de l'appel à la grève générale, toujours difficile de dire à quoi va ressembler vraiment cette journée du 10 septembre, avec des appels à la mobilisation et au blocage dans tous les secteurs d'activité. Cette semaine, dans les journaux de France Culture, nous avons donné la parole à différents acteurs du mouvement, les retraités, les soignants, les organisateurs. Et aujourd'hui, nous recevons le collectif féministe Nous Toutes qui se joint à l'appel du mouvement Bloquons-Ton. Bonjour Emmanuel Anchou.
Bonjour.
Vous êtes militante au sein du collectif. Merci d'être en studio avec nous. Quel rapport entre Nous Toutes et Bloquons-Tout ?
Nous Toutes a décidé de rejoindre le mouvement Bloquons-Tout parce qu'en fait, l'État, par ses choix et orientations politiques patriarcale, capitaliste, colonialiste et impérialiste, crée de la violence, produit de la précarité, de l'isolement, fragilise la santé physique, la santé mentale des personnes et notamment des personnes, et avant tout des personnes racisées, précaires et issues des minorités de genre.
Dans les revendications, dans les raisons de la colère, vous citez le gouvernement Bayrou, la Palestine, l'armement, les violences de genre, le racisme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu fourre-tout ?
Non, on n'a pas du tout cette impression. En fait, Nous Toutes luttent au quotidien contre les violences de genre. On fait des actions de sensibilisation du grand public, on interpelle les politiques. Il y a un constat qui est alarmant s'agissant des violences de genre. Et je vais ne citer que quelques chiffres pour pas alourdir trop le propos. Mais on a quand même 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année. 3 enfants par classe victimes d'inceste. 1 féminicide tous les 2 jours et demi. 1 viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30. Ces chiffres, on les répète tous les jours, on sensibilise, on interpelle. Les organisations féministes travaillent beaucoup, elles produisent des plans d'action. Et en fait, quelle est la réaction de l'État ? Aucune. Ou alors, des mesurettes sans moyens, des discours sans actes, c'est du féminisme washing. Et en fait, tout ça, quand on observe une xénophobie d'État, une fascisation du pouvoir qui met en avant des groupuscules réactionnaires, des mouvements fémonationalistes, masculinistes, anti-genre, anti-choix, tout ça, ça met en danger la vie des personnes issues des minorités de genre. On sait que le sexisme, la transphobie, la lesbophobie tuent chaque jour. On a encore eu des exemples exemple dramatique très très récemment. On lutte aussi évidemment contre la casse sociale et la casse des services publics, puisque pour parler, donner quelques exemples. Et que vous compreniez en quoi la violence est institutionnalisée et pourquoi pour nous il est important de rejoindre ce mouvement. Le judiciaire, on refuse les plaintes sont classées sans suite. Le cadre légal sur le viol n'est pas conforme aux conventions internationales. La France est condamnée, encore récemment, le 4 septembre. Violence policière, éducation nationale, sexiste, lesbophobe.
L'idée, c'est de dire qu'on n'est pas contre une idée, mais contre un système. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des blocages ? Est-ce qu'on fait des cortèges ?
Alors, oui, il y a des rassemblements sous forme de manifestations. Il y aura des actions de fémage, où on rappelle la mémoire des personnes disparues, tuées. Donc là, je parlais de Caroline Grandjean, pour laquelle on rappelle que la lesbophobie tue au quotidien et que l'éducation nationale abandonne ses personnels. Vous savez, nous tout aussi, pour parler de l'éducation nationale encore, insiste sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Un programme a été enfin mis en place alors que la loi oblige les établissements scolaires à dispenser au moins 3 séances par an de la maternelle au lycée depuis 2001. On est en 2025, on a un programme. Quels sont les moyens qui sont donnés aux établissements scolaires ? Quels sont les moyens qui sont donnés aux profs pour intervenir ? Et quelle va être la réalité ? Est-ce que concrètement, tous les élèves de la maternelle au lycée vont pouvoir bénéficier de cette éducation au consentement, au respect, à l'égalité, comprendre ce que sont les discriminations ? Donc le 10 septembre, on va pouvoir prendre la parole au sein de rassemblements, on va pouvoir faire des actions de fémage sur tout le territoire. Les actions sont diverses. On ne peut pas appeler les personnes, les femmes, les enfants à rester dans les foyers, puisque qu'on sait que c'est un lieu qui est particulièrement dangereux pour les personnes, femmes et minorités de genre, qui subissent de la violence. La grève, bah oui, c'est possible, mais quand on est dans une situation de précarité dramatique, c'est difficile à suivre. Donc, se joindre à un rassemblement, avoir une pancarte, aller devant un commissariat de police pour contester le fait que la plainte n'a pas été reçue ou classée sans suite. Tout ça, ça marque les esprits et ça permet de sensibiliser encore aux violences de genre.
Merci Emmanuelle Anchou d'être passée par les studios de France Culture. Je rappelle que vous êtes militante au sein du collectif Nous Toutes et que vous serez donc mobilisée le 10 septembre prochain. Enfin, on connaît la Corée du Sud pour sa cuisine, sa culture, mais aussi sa technologie, avec 97% des habitants qui utilisent Internet tous les jours. La Corée du Sud est le pays le plus connecté au monde. Une habitude qui relève parfois de la surconsommation numérique et peut basculer vers l'addiction, notamment chez les jeunes. Alors le gouvernement a mis en place un centre de désintoxication pour aider les adolescents à limiter leur usage d'Internet. C'est un reportage de Célio Fioretti.
Ouvert en 2014, au cœur des montagnes coréennes, ce centre de désintoxication numérique accueille gratuitement une trentaine d'adolescents chaque mois. Entre suivi psychologique, méditation et activités de groupe, nous retrouvons Kim Tae, 14 ans, inscrit à la demande de sa mère lors d'une séance de corde à sauter destinée à réduire le stress.
Ma mère m'a envoyé ici car je jouais énormément aux jeux vidéo. J'ai aussi dépensé beaucoup d'argent, près de 2500 euros pour acheter des améliorations et des bonus dans le jeu Roblox.
Addiction aux jeux en ligne, réseaux sociaux, mais pas seulement. Gaïon, 19 ans, est tombé dans l'addiction au contenu pornographique en ligne et a lui-même choisi de venir au centre.
La première fois que j'ai vu des vidéos pornographiques, c'était sur la recommandation d'un ami. Et ensuite, j'ai continué à en chercher sans cesse car c'était toujours plus stimulant.
Des jeunes dépendants du numérique qui viennent de plus en plus nombreux au centre, selon son directeur Shim Yong-chol.
Aujourd'hui, la dépendance à Internet et au smartphone touche des enfants de plus en plus jeunes. Autrefois, c'était surtout les collégiens et lycéens, mais maintenant, même les élèves de primaire sont touchés.
Face à ce nouveau public à risque, Shim Yong-chol prévoit l'ouverture de ses programmes de désintoxication aux enfants entre 10 et 12 ans. Un programme pilote a déjà été mis en place.
Un reportage, c'est Lio Fioretti. Enfin, notre collègue de France Inter, Thomas Legrand, ne sera pas à l'antenne demain. La direction a décidé de le suspendre à titre conservatoire après la diffusion d'un échange informel et privé avec des personnalités du Parti Socialiste. Cet échange peut prêter à confusion et alimenter la suspicion à l'égard de France Inter, estime la direction. Un mot du temps pour cet après-midi. Il va rester beau, très beau, même sur l'ensemble du territoire, avec des températures entre 21 et 32 degrés.